Radio Okapi. Écho des développements. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouveau numéro des Codes du développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et des développements durables qui s'intéresse aujourd'hui à l'importance de la conservation de la nature et du développement du tourisme en RDC. Cette émission vous est présentée par Tati Mapoukou. Jean-Marc Matouaki supervise et coordonne ces numéros. Paul Badianyama s'occupe de la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de ce magazine.
Capi vous propose ce programme en mode télétravail suite à l'état d'urgence sanitaire en cours. Retrouvez toutes nos émissions interactives au Capi Service du lundi au vendredi de 10h à 12h en rediffusion de 20h à 22h heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs du lundi au vendredi de 13h à 14h en rediffusion de 22h à 23h heure de Kinshasa. Dialogue entre Congolais du lundi au vendredi de 19h15 jusqu'à 20h en rediffusion le lendemain matin de 4h45 jusqu'à 5h30 heure de Kinshasa. Radio Kapi vous présente toutes ses excuses pour toutes sortes de désagréments et perturbations constatées durant notre antenne. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Radio Kapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de votre fidélité à Radio Kapi, la fréquence de la paix. En RDC, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, est l'autorité chargée de la conservation des aires protégées in situ et ex situ. Depuis le 16 août dernier, la direction générale de cette structure a été confiée à des nouveaux animateurs qui ont des défis majeurs à relever dans les secteurs de la conservation de la nature et de la promotion du tourisme dans les aires protégées de la RDC. Quelle est la vision majeure de la direction générale de l'ICCN sur les enjeux de la conservation de la nature en RDC? Que faut-il faire pour développer l'écotourisme dans les différents sites de conservation de la nature et assurer en même temps le développement des communautés qui vivent à proximité de ces aires protégées? Des plus amples détails au cours de ces numéros des Codes du développement. On démarre notre magazine avec les témoignages de Judith Ndamba, chargée de promotion du tourisme dans les domaines de la chasse et des réserves de Bombolumeni. Cette fonctionnaire de l'ICCN témoigne que c'est depuis 2002 que la fréquentation des visiteurs dans ces sites a sensiblement chuté. On l'écoute.
En 2002, vraiment, on avait vraiment beaucoup de visiteurs venus. Vraiment, la majorité, c'était les Libanais, les Indiens aussi. Vraiment, ils venaient nombreux.
Les Congolais aussi.
Et les Congolais. Les Congolais, vraiment, souvent, c'est les étudiants qui viennent vraiment nombreux. Mais les Congolais ne fréquentent vraiment pas de tourisme, sauf seulement le chauffeur des...
Le conducteur des,
conducteur des
expatriés.
Des expatriés, oui. Ils viennent souvent, mais beaucoup ont reçu des étudiants congolais.
Ah, d'accord. Oui. Mais lorsque les gens venaient ici en tourisme, qu'est-ce qu'ils admiraient de particulier ici chez vous?
Vraiment, ils admiraient les milieux naturels d'abord. Ils viennent aussi pour visiter aussi des animaux.
Vous avez quel type d'animaux ici?
Bon, pour le moment, l'espèce phare, on a les buffles. Les buffles, on a le gui barnaché, les antilopes. On a aussi des hippopotames. On a aussi des singes. On a aussi des sitatunga. Vraiment, on a un peu de diversité des animaux.
Et lorsque les visiteurs viennent pour observer tous ces animaux-là, vous faites comment? Vous les reconduisez dans les sites, dans les lieux de refuge de ces animaux?
Ah oui, on a des guides qui sont là sur place. Dès que les visiteurs arrivent, ils doivent nous appeler, faire la réservation. Ils nous informent qu'on aura besoin d'un guide pour faire les balades. Là, vous allez choisir un ou bien des gardes qui doivent partir avec vous pour aller visiter. On a des pistes tu peux aller visiter, mais ce n'est pas dans un enclos que si vous partez directement, vous voyez des animaux. Si vous aurez de la chance, vous pouvez les voir. Mais si vous n'aurez pas de la chance, vous pouvez aller aussi, sans toutefois voir des animaux.
Toute l'équipe des Côtes du Développement remercie Judith Ndamba pour son témoignage sur la baisse des visiteurs dans les domaines des chasses et des réserves de Bombolumene. Nous devons préciser que ce n'est pas l'unique site qui rencontre ces problèmes de la baisse des fréquentations des touristes et plusieurs facteurs seraient à la base de cette situation. Pour ceux et celles qui ne savent peut-être pas, la gestion des aires protégées incombe à l'ICCN conformément à l'ordonnance loi numéro 75/023 du 22 juillet 1975. Les parcs nationaux ont été tous institués par des ordonnances lois spécifiques qui confirment leur statut de réserve naturelle intégrale, bien que certaines activités à caractère scientifique et touristique y soient aujourd'hui autorisées. Il faut noter que la direction générale de cette institution est confiée depuis le 16 août dernier à M. Olivier Mouchiété. Ceci est l'aboutissement de son long parcours dans les domaines de la conservation de la nature en RDC, ajoute le directeur général intérimaire de l'ICCN.
La place où je me trouve actuellement à la tête de l'ICCN est pour moi l'aboutissement d'une longue carrière. Je suis assez bien connu dans la région ici pour avoir planté le puits de carbone Ibi Bateke sur le plateau des Bateke. Et j'ai aussi la chance dans cette nouvelle expérience d'être secondé par Vincent Imbongo qui a été nommé directeur général adjoint. Et donc c'est très intéressant parce que Vincent et moi-même avons des profils parfaitement complémentaires, et pour relever un défi aussi important que celui que nous trouvons ici à l'ICCN, nous ne sommes pas trop de deux personnes, parce que comme vous le savez, dans la mécanique qui a été mise en place, le conseil d'administration de l'ICCN a été dissous et donc maintenant le directeur général adjoint et moi-même nous rapportons directement à nos ministres de tutelle qui sont en l'occurrence la vice-premier ministre Madame Bazaïba pour l'environnement, Monsieur Modero Nsimba au tourisme et le ministre de la Défense avec le corps PPN. Donc pour répondre plus directement à votre question, je suis à la fois fier et honoré de cette distinction.
Quels sont les axes prioritaires du nouveau comité de gestion de l'ICCN ? Olivier Mouchiété, son directeur général intérimaire, répond.
Nous avons trois axes de travail fondamentaux. Le premier, qui est le plus préoccupant et sur lequel il faut nécessairement travailler à court terme, c'est la question des droits de l'homme. Très malheureusement, nous constatons que de nombreuses exactions et violations des droits de l'homme ont lieu dans plusieurs aires protégées. Et donc c'est une préoccupation fondamentale pour la bonne et simple raison que dans la mission difficile de la conservation de la nature, la conservation de la biodiversité et ce qu'on appelle la conservation communautaire, ce qui est au centre du dispositif, c'est l'homme. Et donc si on ne respecte pas l'homme, forcément tout l'équilibre du dispositif est mis en péril. Donc je pense que toutes les questions des droits de l'homme sont fondamentales et nous allons travailler là-dessus en priorité. La deuxième grande priorité, c'est l'intégrité du territoire. Les aires protégées en République démocratique du Congo, ça représente 13,5% du territoire national. Si vous incluez là-dedans les zones tampons qui sont en périphérie, nous gérons 25% du territoire national et donc grosso modo 25% de la population congolaise. Ça fait quand même déjà pas loin de 25 millions de personnes, allez disons 20 pour être modeste, mais c'est un gros boulot. Et donc aujourd'hui l'intégrité du territoire c'est fondamental et ça participe d'ailleurs à rétablir l'autorité de l'État à l'intérieur du pays. Nous en avons besoin. Comme vous le savez, un grand nombre de nos aires protégées sont sur des zones frontalières et donc si on viole nos frontières à l'intérieur du pays, nous courons le risque qu'on viole nos frontières aussi vers l'extérieur. Et donc nous avons là un rôle de protection du territoire qui est essentiel, qui est stratégique et donc nous devons y prendre garde. Le troisième axe de travail et sur lequel aussi nous allons mener des actions immédiates, c'est toute la partie de renforcement des capacités du personnel, de rajeunissement du personnel. Nous avons, je dis du personnel, en fait ce sont des agents. Il y a un peu moins de 4000 agents à l'ICCN. dont les trois quarts sont en fait des éco-gardes. Alors si on rentre un petit peu dans le détail, on se rend compte qu'il y a près de la moitié qui sont en situation de retraite ou de pré-retraite. Donc il est nécessaire de faire un rajeunissement, il est nécessaire d'avoir aussi des dames qui rentrent dans nos équipes. Notre ratio genre est encore trop peu favorable pour les dames, donc nous y prendrons garde, ça doit se faire. Et en même temps, du renforcement des capacités, on doit aussi simplement renforcer les effectifs. Nous n'avons pas assez de monde, quoi. Hein. 4000 personnes pour gérer 25% du territoire national, excusez-moi d'en rire, hein, mais c'est un petit peu dramatique quand même. Nous avons besoin d'avoir beaucoup plus de monde, plus de moyens, et ça touche directement évidemment la composante humaine.
Il faut noter que dans le domaine de la conservation de la nature, le gouvernement congolais a signé des accords avec certains partenaires extérieurs, notamment la délégation de l'Union européenne. Ceci dans le but de préserver un espace naturel qui est unique au monde, d'après Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en RDC.
Il y a eu une demande de partenariat, de coopération, pour préserver un espace naturel qui est absolument unique, absolument extraordinaire, qui est même pour certaines aires, je pense à l'aire de Virunga, qui est une aire, un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, il y a eu une demande de nos partenaires pour qu'on travaille ensemble pour aider à protéger ces aires protégées, qui représentent environ 12,5%, 13% du territoire congolais. Et faire en sorte que ces territoires, ces aires protégées, puissent bénéficier véritablement aux populations. Et donc, construire ensemble un partenariat qui soit véritablement, même si le terme peut paraître un peu galvaudé, gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant entre les partenaires extérieurs qui aident à préserver un espace unique, gagnant au point de vue du gouvernement congolais qui valorise un patrimoine mondial unique au point de vue de l'humanité, un trésor, et gagnant pour la population congolaise qui puisse bénéficier des ressources de ces parcs.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les réalisations concrètes ?
Les réalisations, elles sont très concrètes, elles sont très palpables. Ça fait à peu près 30 ans que l'Union européenne intervient aux côtés de la RDC et maintenant nous travaillons sur 5 aires protégées. Nous avons commencé un partenariat qui est déjà ancien avec Virunga, le parc national de Virunga, mais nous travaillons aussi sur les autres parcs. Très concrètement, donc il y a un appui financier, c'est l'appui du FED, du Fonds européen de développement, environ 125 millions d'euros qui ont été réservés pour aider à la gestion de ces parcs. On intervient sur deux niveaux, la protection, la conservation de l'environnement d'un côté, donc la dimension environnement, mais aussi la dimension agricole, la dimension agriculture durable. Et donc c'est la dimension protection de l'environnement, donc c'est aider par exemple à l'équipement des gardes-parcs, faire en sorte qu'ils aient les moyens de protéger le parc, donc c'est la dimension conservation, mais aussi dans la dimension développement économique pour faire en sorte qu'il y ait des activités économiques qui se développent autour du parc, des activités agricoles, pour qu'on rentre véritablement dans des dimensions de développement agricole durable et que pour permettre aux paysans et aux gens qui vivent autour de ces parcs de ne pas avoir à dépendre directement des ressources du parc, de ne pas dépendre du braconnage, de la chasse, mais qui eux-mêmes puissent développer leurs ressources autour du parc. Et il y a à peu près, de mémoire, 40% de nos ressources qui sont consacrées à la protection, à la conservation, et 60% des ressources qui sont consacrées au développement régional autour du parc.
Au-delà de l'appui institutionnel de certains partenaires extérieurs, le nouveau directeur général intérimaire promet d'initier des projets d'autofinancement de l'ICCN à long terme. Des programmes de promotion de l'écotourisme sont en cours d'exploration, selon Olivier Mouchieté. Nous rappelons qu'il est le directeur général de l'ICCN.
Alors un de nos axes de travail très, très important sur lequel nous sommes déjà attelés, c'est les capacités d'autofinancement de l'ICCN. Comme je le disais à l'instant, nous sommes très fortement tributaires de l'aide publique au développement. Ces aides-là ne peuvent jamais s'envisager que comme étant des assistances provisoires. On ne peut pas passer toute sa vie et toute son existence à dépendre de l'extérieur. Donc nous devons être capables de générer nos propres ressources. Un des axes de ressources internes, c'est évidemment l'écotourisme, sur lequel il y a encore beaucoup à faire. Et donc, on a eu de très nombreuses discussions avec le ministre du Tourisme sur ce sujet. Donc je peux déjà vous dire que vous allez bientôt voir sortir un certain nombre de choses de terre. Petite parenthèse, mais on a déjà commencé à le faire à la Bombolomene, hein, donc si vous n'avez rien de mieux à faire, venez et vous verrez. Oui, mais il faut revenir, hein, parce que ça a changé depuis. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote, une petite expérience, mais qui nous sert de référence. Alors au-delà de la capacité d'écotourisme, une autre grande voie, c'est évidemment de générer de la valeur ajoutée à partir de nos ressources naturelles. Donc la production d'électricité, c'est une des possibilités. Étant entendu que la production d'hydroélectricité en milieu rural doit se faire dans des conditions qui sont raisonnables pour la population et pour l'environnement. Hein, parce que nous avons des cas de figure qui sont parfois un petit peu compliqués, justement en raison du chevauchement sur les zones de parc, etc. Mais, je le disais en introduction de cette conversation, le bien-être de la population est primordial pour faire en sorte que cette population devienne un acteur efficace de la conservation de la biodiversité. Je vais parler simplement, si on met de la lumière dans les villages, on aura moins de problèmes avec le braconnage. Hein, et ça rime en plus. Hein. Donc allons-y pour les actions de ce type-là. En plus, vous le savez très bien, mon cher Tati, mais je suis moi un fervent défenseur du développement rural intégré. Et donc, en clair, ça veut dire que nous devons être capables de générer de la valeur ajoutée à proximité des lieux de production de produits primaires, des produits alimentaires, etc. Et donc, encore une fois, pour parler simplement, ça veut dire que dans nos villages, on doit avoir des moulins qui nous permettent de la farine, on doit avoir des fours qui nous permettent de faire du pain avec de la farine de manioc et non pas de la farine importée de blé, qui doivent nous permettre d'emballer nos produits, qui doivent nous permettre de les conserver dans du froid, etc. Et donc, ces valeurs ajoutées doivent être faites à proximité de là où les marchandises sont produites, donc en clairement dans les villages.
Allô ? Allô ? Allô ?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables, d'ACPI n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Vous êtes en train de suivre Écho du développement sur Radio Capi, votre magazine qui traite les questions de l'environnement et des développements durables, qui s'intéresse aujourd'hui à l'importance de la conservation de la nature et du développement du tourisme en RDC. Nous vous invitons cette fois-ci à une randonnée à Bombolomene, plus précisément au bord de la rivière Lumene, où l'on a jeté les ponts en liane. Notre guide touristique s'appelle Albert Mbo Ntanga.
Ici, nous sommes sur le versant du site. On est au bord de...
De la rivière Lumene.
Ah, d'accord. Il y a également une source aménagée
à côté de Lumene. Donc, qui vient du haut vers la rivière.
Ah, d'accord. Oui. C'est cette eau-là que vous utilisez comme boisson
pour boire.
Ok. Oui. Il y a beaucoup de poissons ici.
Il y a beaucoup de poissons. Vous avez les tilapia, les golos,
okay.
Les pimpa. Il y a aussi des tortilles marines de la rivière.
Des tortilles
ici.
Dans la rivière.
De la rivière aussi.
Ok. Oui.
Vous avez les paillotes pour les visiteurs qui viennent se camper pour faire le camping libre.
Ok. Et
nous avons le pont de Liane. Ça fait partie des activités touristiques. Les gens préfèrent traverser
sur l'autre, de l'autre rive côté, par les ponts.
Par les ponts.
Les ponts en Liane.
Oui. Il est pratiquement naturel.
Ok.
Fait par nous-mêmes, comme a dit les chefs de site. En traversant, on doit regarder toujours
devant.
Si vous, vous regardez vers, vers la rivière, vous remarquez comme si c'est le pont qui est en train de partir.
Ah, donc là, vous conseillez de regarder.
Vous voyez devant.
Ah, d'accord.
Comme ça, vous travaillez, vous traversez. Parce que ce n'est pas le pont qui.
Ah, ici, c'est le selfie le plus difficile à faire. Parce que les femmes partent dans la rivière.
Ouais.
Mais pour protéger les ponts, on a mis les câbles mais.
Ah, les câbles métalliques.
Métalliques ici.
Okay.
En bas comme un, en haut.
Et là, mais là il faut garder l'équilibre. Hein?
Oui, il faut toujours toucher.
Tenir le.
Tenir,
ok. Oui, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que ça se déplace.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut regarder les directeurs là-bas.
Ok.
Ouais. Sinon. Vous allez voir que c'est les ponts qui sont en train
de se déplacer.
C'est l'eau qui est en train de se déplacer.
C'est l'eau qui coule, oui. Vous vendrez toutes ces photos là?
Non.
Ok.
D'autres visiteurs aiment camper.
C'est l'eau qui est là-bas, hein?
Oui, mais ça c'est la réserve.
Okay.
C'est la partie réserve.
La partie réserve. Ah, d'accord.
Oui. Elle est entre les deux rivières, la Bombo et la Lumene.
Ok.
La Lumene ici. De l'autre côté, c'est la Bombo. Elle est dans l'intérieur, c'est la réserve.
Voilà. Ok. Ah, mais c'est cool ici, hein?
Waouh! Des paillotes.
Ouais.
Pour les visiteurs.
Pour le visiteur, ouais.
Ils viennent.
Ils peuvent venir avec leur barbecue, ils restent ici toute la journée.
Toute la journée.
Et les soirs, ils montent.
Oui. D'autres aussi, ils passent la nuit.
Ici, avec des tentes de.
Ils mettent des tentes et puis.
Ok.
Ils font leur fête.
Ah, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant.
De l'autre côté, c'est ce qui nous ouvre, nous partons aussi, nous allons voir les rapides.
Là-bas devant?
Oui, oui, devant, à 100 mètres. Ce n'est pas loin.
Ah, c'est pas loin, mais on peut y aller. Hein. Merci à notre guide touristique pour cette balade le long de la rivière Lumene. Ce cours d'eau traverse les domaines de la chasse et de la conservation des Bombo Lumene. Dans quel état se trouvent aujourd'hui les jardins botaniques et zoologiques de la ville de Kinshasa? Olivier Mouchiété, directeur général intérimaire de l'ICCN, répond.
Ici, vous m'interpellez sur deux des plus petites aires protégées de toute la panoplie des 72 aires protégées que nous avons en République démocratique du Congo. Moi, ici, en tant que directeur général, je suis là pour avoir une vision globale, ce qui ne m'empêche pas d'être évidemment très attentif aux petits détails, le diable est dans le détail, aux petits détails de management. Les deux exemples que vous prenez ici sur le jardin zoologique de Kinshasa et le jardin botanique pourraient très bien aussi se comparer au jardin de Eala, à nos réserves de biosphère, etc., où en fait ces différentes aires protégées sont totalement sous-évaluées par rapport à la capacité qu'elles pourraient produire. Les petites aires protégées, donc comme les jardins botaniques ou les jardins zoologiques, ont une fonction pédagogique et didactique extrêmement importante, plus aussi la fonction de loisirs, etc. Alors pour les deux qui vous intéressent, je vais vous informer aussi, et c'est peut-être un scoop, mais il est de taille, c'est que ces préoccupations-là sont prioritaires pour Madame la vice-première ministre. Elle vient de m'en parler il y a quelques minutes à peine, donc elle est extrêmement préoccupée sur ces situations et elle souhaite que nous trouvions des solutions appropriées. Or, il se trouve qu'on a un joli petit projet dans les tiroirs qui est en cours de maturation et donc nous allons travailler là-dessus de façon à faire de nos aires protégées urbaines des modèles, des vitrines d'apprentissage, de sensibilisation, etc. En plus, quand on est à Kinshasa ici, moyennant la mise en place de moyens appropriés, il est possible de vite sortir du noyau urbain. Et je pense que aussi bien le jardin zoologique que le jardin botanique doivent être conçus dans leur modernisation en s'ouvrant vers l'extérieur. Hein, de multiples manières. Donc on va travailler là-dessus. J'ai dans les tablettes un très très beau projet qui m'a été présenté par une jeune femme congolaise. Et donc nous allons appuyer ça avec le ministère de l'Environnement et le ministère du Tourisme.
Dans le cadre de la mobilisation des ressources pouvant aider à la conservation de la nature, le gouvernement congolais a mis en place, depuis l'année dernière, les fonds Okapi pour la conservation de la nature. C'est en principe à partir de l'année prochaine que l'argent généré par ces fonds va contribuer à la mise en place de certains projets dans les domaines de la conservation de la nature, ajoute Olivier Mouchieté. Nous rappelons qu'il est le directeur général intérimaire de l'ICCN.
Alors le fonds Okapi pour la conservation de la nature au Congo est en fait un appareil financier dont la gestation a pris à peu près une dizaine d'années. Hein, donc c'est plus long que les éléphants. Et le fonds a été doté depuis le début de l'année d'une vingtaine de millions de dollars, je pense quelque chose comme ça. Ce capital initial a été placé sur des marchés financiers, a généré des intérêts, et ça c'est le stade auquel nous nous trouvons ici maintenant jusqu'au début de l'année 2022. Et donc c'est à partir du début de l'année 2022 que nous allons commencer à financer des projets sur base du fonds Okapi. Exactement, tout à fait. Et donc c'est très encourageant, on a des beaux projets. Dans une dizaine de jours, nous avons l'Assemblée Générale du Fonds Okapi. Et puisque vous me posez la question, c'est l'occasion pour moi de rappeler qu'avec le ministre d'État François-Xavier Donéa, avec le ministre Azarias Rouberoy et moi-même, nous sommes les trois membres fondateurs du Fonds Okapi pour la conservation de la nature au Congo. Voilà. C'est pour ça, on est là pour informer le public.
Dans le domaine de la conservation de la nature, un autre défi majeur est celui de retirer nos aires protégées sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO. Olivier Mouchieté, directeur général intérimaire de l'ICCN, mise sur les négociations au niveau international.
On est sur la liste noire du patrimoine mondial. Et donc ça veut dire qu'en péril, on risque de sortir de cette liste-là. Donc ça déjà, c'est sur la liste, on risque de sortir de la liste du patrimoine mondial. Alors pourquoi c'est très important d'être dans la liste du patrimoine mondial? Parce qu'une fois qu'on est là-dedans, on fait l'objet de certaines attentions qui génèrent aussi des ressources. Hein, d'abord des touristes et puis des financements internationaux qui sont attribués aux sites, aux territoires qui sont répertoriés dans le patrimoine mondial de l'humanité. Si vous êtes sur la partie noire de cette liste et que vous vous retrouvez patrimoine en péril, ça veut dire que vous risquez de sortir. Alors pourquoi est-ce qu'on est en péril ? Parce que si par exemple on veut creuser un puits de pétrole à l'intérieur de votre aire protégée ou de votre parc national, eh bien vous perdez votre statut de patrimoine de l'humanité parce que vous devenez simplement un puits de pétrole. Quoi. Et je parle là facilement pour que tout le monde comprenne bien. Alors donc maintenant, cette semaine, je vais me rendre jusqu'au parc de la Virunga pour discuter avec la direction du parc là-bas, pour bien comprendre la situation. Il y a des mécanismes qui existent pour nous permettre d'en sortir. Et je pense que le fond de votre question nous ramène quand même à des négociations à des niveaux internationaux. Hein, parce que nous sommes sur notre sol congolais. La gestion de notre sol revêt de notre propre souveraineté. Et c'est nous, Congolais, qui décidons de ce qu'on veut faire. Et si aujourd'hui notre décision est d'accorder la priorité à la conservation de la nature, et il faut qu'on nous explique clairement quel est le bénéfice que nous allons en tirer. Sinon, nous irons vers d'autres options.
C'est par ici que nous bouclons ce magazine consacré à l'importance de la conservation de la nature et de la promotion du tourisme en RDC que vous a présenté Tati Mapoukou. Jean-Marc Matoua qui a supervisé et coordonné ce numéro. Paul Badianyama s'est occupé de la prise de son. Retrouvons-nous pour un nouveau numéro de Code du Développement le jeudi prochain. À bientôt.